Au Burkina Faso, un coup d'État manqué, coup d'État réussi, mise en scène, putsch raté. Que se passe-t-il? La situation est actuellement très floue au Burkina Faso depuis ce week-end avec les grandes manifestations en soutien au Mali et les fusillades dans des camps militaires et près de la résidence donc du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Actuellement, beaucoup de médias disent qu'un coup d'État a bel et bien eu lieu et d'autres émettent encore des doutes en disant que le président serait en lieu sûr. Des tirs ont été entendus dimanche en fin de journée à Ouagadougou près de la résidence donc du président burkinabé où des mutineries ont eu lieu dans plusieurs casernes, comme l'ont rapporté des habitants, mais évidemment information relayée par l'AFP. Un hélicoptère tout feu éteint aurait également survolé le quartier de la Patte d'Oie où se situe la résidence au moment où ont eu lieu donc les tirs qui, d'abord nourris, sont devenus ensuite plus sporadiques selon des habitants du quartier. La couverture par les médias mainstream concernant la situation actuelle au Burkina Faso est assez impressionnante, surtout qu'ils sont en train de profiter de la situation pour masquer la colère de la population burkinabée et leur volonté de soutenir le Mali et également leur colère donc vis-à-vis de la France, seulement en une colère contre le président Kaboré. Il est clair qu'une partie de la population burkinabée a montré également son mécontentement par rapport à la politique jugée lâche du gouvernement burkinabé par rapport à la France. En dehors des médias français, il est clair que ce coup d'État est assez louche. Vers mi-décembre, donc, il y avait déjà une séance de travail avec l'ambassadeur de France, Luc Allade, accompagné d'une délégation d'officiers généraux français. On avait déjà l'impression que l'ambassadeur Allade avait repris les rênes donc du Burkina Faso à ce moment-là. Les dernières actualités qui ont suivi donc ont également montré que quatre militaires français étaient blessés lors d'une explosion dans le nord du Burkina, toujours soi-disant qu'ils étaient en patrouille. Des militaires français ne peuvent pas se balader comme ça au Burkina Faso, surtout pas après le soulèvement qui a eu lieu donc ces derniers temps. On a pu voir notamment le peuple burkinabé stopper tout un convoi entier de militaires français en provenance de la Côte d'Ivoire qui devait faire un détour par le Burkina Faso. On se demande toujours pourquoi, pour se rendre à Gao au Mali. Pour le moment, certains médias disent même que le nouvel homme fort du Burkina Faso serait le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandoago Damimba. Donc rien n'est sûr, sauf une chose. La France a complètement perdu l'Afrique. Les pistes diront que c'est la France qui aurait orchestré ce coup d'État au Burkina Faso et d'autres que c'est donc en emboîtant le pas au Mali que ce coup d'État a été fait. Le plus important dans cette affaire, c'est bien que la France a entièrement perdu l'Afrique et surtout sa population. Ce qui veut dire en d'autres termes que ce sont les populations qui sont souveraines et non plus les néocolons ou encore les dirigeants. Même si une nouvelle personne prend le pouvoir au Burkina Faso, il n'a pas d'autre choix que de suivre la population. Sinon, il est clair qu'il ne va pas faire long feu. C'est ce que la France n'a toujours pas compris visiblement. Et à force d'être dans le déni, il est clair que les populations dans le Sahel, au Burkina Faso, tout comme au Mali, ne vont plus laisser les politiques néocoloniales se croire encore à l'époque de la colonisation. Cette ère est complètement révolue. Plusieurs sources ont annoncé donc l'arrestation du président Roch Kaboré dans la nuit du 23 au 24 janvier, mais selon les dernières informations que nous avons vues, le président serait en lieu sûr jusque dans la matinée de ce lundi 24 janvier. Même s'il est confirmé que son domicile privé, situé dans le quartier de la Patte d'Oie, a été pris donc par les mutins, qui ont également tiré sur un convoi dans lequel il n'était pas présent, blessant quelques gardes de sécurité. Les véhicules de ce cortège à vide sont toujours présents à Ouaga Inter. Roch Kaboré ne serait donc pas encore aux mains des mutins qui, selon d'autres sources, devraient faire une déclaration dans les heures à venir. Les informations concordantes établissent que la situation aurait dépassé le stade de simple mutinerie pour virer vers un coup d'État. Les tractations seraient donc en cours. Est-ce encore une tentative ratée de la France? Cette affaire reste tout de même à suivre. Cela dit, concernant le Mali, la France et ses alliés sont visiblement bel et bien en danger et le fait donc de vouloir se retirer du Mali voudrait dire s'implanter au Burkina Faso dans le pays des hommes intègres. Une attaque de 8 roquettes dans une base militaire à Gao et maintenant une attaque d'un camp de la mission des Nations Unies à Ménaka dans le nord du Mali cela n'a pas été la première fois d'ailleurs, a été visé ce dimanche après-midi par des tirs d'obus de mortier qui n'ont pas fait visiblement de victimes, a-t-on appris auprès de l'organisation. Ce dimanche 23 janvier, le camp de la MINUSMA à Ménaka a été visé par 4 obus de mortier, a déclaré un responsable de la MINUSMA. Aucune victime ou dégât n'a été signalé, selon la même source qui n'a pas précisé qui sont les auteurs de ces tirs. Cette attaque survient quelques heures donc après la mort d'un soldat français lors d'une attaque au mortier samedi contre le camp de Gao dans donc, le nord du Mali, dans un contexte d'extrême tension entre Paris et Bamako sur fond de déploiement de soldats russes dans ce pays du Sahel. Pourtant, les officiels français n'ont pas annoncé les auteurs de ces attaques, annonçant seulement qu'ils auraient été neutralisés. Ce qui nous donne l'impression toutefois qu'une résistance est réellement en train de se mettre en place, car beaucoup appelaient cela donc un false flag, et que si ces troupes d'occupation militaire ne quittent pas le Mali au plus vite, les attaques vont se multiplier. On sait également que la France ne cherche pas à laisser tomber le Mali ou même le Sahel et que les événements au Burkina Faso ont l'air de montrer que Paris cherchera à transformer le Burkina en une nouvelle base militaire grandeur nature comme elle a essayé de faire avec le Mali. Ce qui est peine perdue de toute façon car cela fait bien longtemps maintenant que Paris n'a plus affaire à des dirigeants africains mais bien à la population africaine. Donc peu importe les manœuvres sournoises qu'elle tentera de mettre en place pour maintenir sa position dans le Sahel, la France a bel et bien perdu pied en Afrique. False flag, coup d'État, assassinat ciblé, le seul mot d'ordre des populations au Sahel et en Afrique en général, c'est que l'Occident quitte le continent et cesse ses ingérences de néocolons sur le continent. La machine est lancée et il est impossible maintenant de l'arrêter. Au Mali, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, Bamako est actuellement dans la dénonciation des exactions de la France vis-à-vis du Mali et même du Sahel. Écoutons le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga.
Êtes-vous en train de dire que la CEDEAO est à la solde de quelqu'un? Si oui, de qui?
Je ne dis pas qu'elle est à la solde de quelqu'un, mais ses décisions sont manifestement influencées par des prises de position extra-africaines. Vous savez, on a besoin un peu de rafraîchir les mémoires des uns et des autres. La crise malienne est survenue en 2012. L'une des raisons, c'est vrai, c'est l'absence d'être de leadership éclairé et de maturité stratégique qui a fait qu'on a détruit notre outil de défense. Mais ça, c'est peut-être 30%, 40%. Mais qui a détruit la Libye pour répandre les armes partout, pour amener des mercenaires de Libye, pour dire « allez-y, coupez le Mali en deux ». Ce n'est pas nous qui le disons. C'est des responsables français. J'ai les noms, j'ai un document, tout est documenté, qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Vous avez des responsables des anciens mouvements rebelles qui disent clairement que c'est la France qui leur a dit « on va diviser le Mali, vous donner l'indépendance ». Mais qu'ils ont compris plus tard que la France voulait les utiliser pour affaiblir l'État malien et faire ce qu'elle veut. Mais passons sur ça. Le président est tombé. La CEDEAO, vous savez, elle parle de force d'attente aujourd'hui pour nous intimider. Ce qui veut nous intimider, notre peuple et notre armée les attend de pied ferme. Mais en 2012, il y a eu un sommet de la CEDEAO à Dakar, à l'investiture du président de mon frère Macky Sall. À ce sommet de la CEDEAO, comme par hasard, surgit le ministre des Affaires étrangères de la France, Alain Juppé. Et quand la CEDEAO décide d'une force d'attente de 3000 hommes pour libérer le Mali, M. Juppé dit non, mais 3000 hommes c'est trop par rapport à 500 combattants irrédentistes. Vous avez vu? On continue. Le Mali et la CEDEAO, à travers l'Union africaine, demandent la création d'une force international, qu'on appelle la MISMA, créée par l'ONU. Vous savez, ceux qui ont commencé à dénigrer la MISMA, c'est les diplomates français, les écrits existent. On a fait traîner les choses. Quand on a constaté l'absence de capacité de l'AMISMA. On a créé la MINISMA. Qu'est-ce qui a été dit à la création de la MINISMA? Allez-y, la résolution. On est venu nous dire après que les opérations de maintien de la paix, ce n'est pas pour faire la guerre. Mais quand on l'a amené, qu'est-ce qu'on a dit aux Maliens? C'est pour les aider à lutter contre le terrorisme. Mais je n'ai pas sur ça. L'opération Serval, quand c'est intervenu, le 11 janvier, qu'est-ce qui a été dit? Trois objectifs par le président français, repris par son ministre de la Défense. Premier objectif, détruire le terrorisme. Deuxième objectif, aider à restaurer l'intégrité du territoire malien. Troisième objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. 8 ans après, aujourd'hui on est en 2022, donc ça fait 9 ans après, l'intégrité du territoire, disons le terrorisme au lieu d'être détruit, il a quitté l'extrême nord pour prendre 80% du pays. L'intégrité du territoire à la date d'aujourd'hui n'est pas rétablie. Les résolutions des Nations Unies changent chaque année, au point que cette année nous nous sommes opposés à une résolution. Donc vous tirez vous-même la leçon. Mieux, est-ce que vous savez qu'en 2014, lorsque l'armée malienne a essayé de reprendre la totalité de son territoire, il y a eu des affrontements dans l'extrême nord. Les soldats maliens, certains qui se sont réfugiés dans le camp de l'AMINISMA, on les a désarmés, ça se comprend. Est-ce que vous savez que quand on a voulu, l'armée a voulu récupérer les armes, le commandant de Barkhane a dit non, que c'est un butin de guerre qui appartient à la SEMA. Ils ne vont pas le donner à l'armée malienne. Est-ce que vous pouvez imaginer? Vous savez qu'en 2016, lorsque l'opération Barkhane a été installée, le commandant de Barkhane a fait le tour de ses forces dans les pays concernés. Il est allé au Tchad, sur la base de Faye Larjo. Là, il a fait la revue des troupes. Et vous savez ce qu'il a dit à ses troupes? C'est documenté ce que je dis, hein. C'est un journaliste français, Laurent Larcher, qui l'a rapporté dans une émission où il parle des non-dits de la diplomatie française. Le commandant de Barkhane dit à ses troupes, ça va vous faire froid au dos. Il leur dit, nous étions venus ici il y a 100 ans, autrement dit en Afrique. Nous sommes partis il y a 60 ans. Nous sommes revenus pour 100 ans. Tirez vous-même les conclusions. Et les Africains comprendront beaucoup de choses. Pourquoi au Mali, nous avons toutes ces forces-là. Le Mali, comme j'ai dit, l'armée malienne, Barkhane, Takuba, G5 Sahel, ECAP, EUTM, et ça ne fait qu'empirer. À la fin, c'est la désintégration de l'État. La suite, on peut l'imaginer. Est-ce que vous pouvez imaginer que la lettre que le président malien a écrite à l'État français pour demander son intervention, dont aucune copie n'existe ni à la présidence, ni aux affaires étrangères, l'original est en France. Quand nous, on en a eu besoin récemment, c'est sur le site du Sénat français qu'on a trouvé. Parce que nous voulons relire les accords déséquilibrés qui font de nous un État qui ne peut même pas survoler son territoire sans autorisation de la France. Ces accords, nous les avons relis. Ça fait partie des choses pour lesquelles il monte le monde contre nous. Je préfère le redire. Nous avons relis ces accords, le gouvernement qui est là aujourd'hui, et on les a envoyés. Donc, je continue. Le 17 novembre 2015, le commandant de Barkhane a tenu une conférence de presse ici, où il a accusé les mouvements signataires. Il dit que certains ont les pieds avec les mouvements terroristes et un pied dans l'accord. Mais ça, c'est quoi ça? La lettre qui a été envoyée à l'État français le 11 janvier 2013 indique clairement appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français sur notre terre. Ils l'ont respecté à Kona, à Gao. Arrivés à l'extrême nord du pays, ils ont bloqué l'armée malienne. Ils ont amené 4000 militaires français avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Ils ont fait venir d'autres Africains. Ils ont fait venir la MINISMA, interdit à l'armée malienne d'accéder à une partie de son territoire. Alors qu'il proclame que c'est pour recouvrer l'intégrité du territoire. Donc il y a un discours apaisant, lénifiant, en attendant le réveil brutal et la réalité que nous nous voyons. C'est, on arrive jusqu'à nous interdire de survoler des parties de notre territoire. Il y a quelques mois, quand on a massacré les gens à Tassiga, notre armée a appris qu'il y a des groupes de terroristes qui sont en train de s'organiser pour venir dans la zone. On a voulu faire voler un aéronef pour aller surveiller, mais on nous a dit non, c'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Vous croyez qu'on va rester dans ça? Ce gouvernement qui est en place, avec le colonel Assimi Goïta à la tête, a décidé que nous n'allons plus demander d'autorisation à qui que ce soit pour survoler notre territoire. Nous allons nous donner les moyens, et nous les avons aujourd'hui, Dieu merci. En moins de 7 mois de la rectification de la traîne, nous avons aujourd'hui les moyens de survoler, aller partout sur notre territoire sans autorisation.
Et vous allez plus loin, vous interdisez le survol de notre territoire par des aéronefs militaires français.
C'est très simple, c'est la CEDEAO qui a pris les mesures pour dire qu'aucun avion de la CEDEAO ne vient chez nous. Le lendemain, on débarque des Maliens à l'aéroport de Paris, qui avaient déjà leur billet d'embarquement, à leur disant, c'est les militaires qui ont interdit que l'avion atterrisse à Bamako, ce qui n'était pas vrai. Hier, pendant avant d'embarquer, on leur dit non, c'est l'Élysée qui a dit que les vols sur le Mali sont annulés jusqu'à la nouvelle heure. Mais pendant qu'ils font ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut être cohérent. Pendant qu'ils font ça, un avion quitte un pays de la CEDEAO, il pénètre sur notre territoire, ne sachant pas qu'aujourd'hui on s'est doté des moyens de surveillance. On l'identifie. Quand il a su qu'on l'a identifié, il éteint le transpondeur. Quand il a compris qu'on continue à suivre son mouvement, il éteint la radio. Il vient, il débarque, il retourne. On ne lui dit rien. Nous avons fait un communiqué hier pour les mettre en garde. Mais pendant qu'on nous dit qu'il y a une force d'attente qu'on prépare contre nous, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cet avion? Pourquoi il rentre sur nos territoires? Pourquoi il se cache? On est obligé de se poser des questions. Mais nous avons dit d'arrêter cela. Aujourd'hui, nous avons les moyens de défendre notre territoire.
Le gouvernement burkinabé dément les rumeurs de coup d'État. Le gouvernement du Burkina Faso dément des rumeurs de coup d'État alors que des tirs nourris se font entendre dans des camps militaires de la capitale Ouagadougou et d'autres villes du pays depuis la nuit du samedi 22 janvier 2022. Des informations publiées sur les réseaux sociaux tendent à faire croire à une prise de pouvoir par l'armée en ce jour 23 janvier 2022. Le gouvernement, tout en reconnaissant l'effectivité de tirs dans certaines casernes, dément ces informations et appelle les populations à rester sereines, annonce un communiqué signé du porte-parole du gouvernement Al-Kassoum Mega, parvenu à l'agence ivoirienne de presse le dimanche 23 janvier 2022. Le gouvernement burkinabé réaffirme sa confiance à l'armée qui demeure républicaine, conclut le communiqué. La Centrafrique prépare ses premières élections municipales depuis plus de 30 ans. La République centrafricaine va tenir des élections municipales le 11 septembre 2022, les premières depuis plus de 30 ans. En effet, ces 3 dernières décennies, les maires du pays ont tous été nommés par l'exécutif et le dernier scrutin remonte à 1988. L'autorité nationale des élections s'active pour préparer cet événement. Le coût total de l'organisation est estimé à environ 9 milliards de francs CFA. Nous allons réviser le fichier électoral où les personnes en âge de voter seront à nouveau recensées et auront leur carte d'électeur, a assuré Danny Victorien Yama, responsable de la finance au sein de l'autorité nationale des élections. Un succès de ces municipales pourrait ouvrir la voie à un nouveau départ pour les populations centrafricaines. La Chine entend renforcer la coopération avec la RDC. La Chine entend accompagner la République démocratique du Congo RDC dans sa mise en œuvre du projet de développement à la base des 145 territoires en renforçant la coopération bilatérale selon un communiqué publié vendredi par la primature de la RDC. Lors d'une audience avec le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalukonde, l'ambassadeur de Chine en RDC Zhu Jing a présenté au gouvernement congolais les recommandations de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine tenue en décembre 2021 et l'accompagnement de la Chine dans le projet de développement à la base des 145 territoires de la RDC. Selon ce diplomate chinois, lors de ces rencontres, le gouvernement chinois avait annoncé 9 programmes pour promouvoir la coopération entre les gouvernements chinois et africains. Au Kenya, Opibus dévoile le premier prototype de son bus électrique. Le Kenya constitue un terrain d'expérimentation idéal pour des solutions d'immobilité susceptibles d'être déployées sur tout le continent. Opibus y développe des modèles de bus écologiques pour un transport en commun simple, efficace et durable. Opibus, une entreprise à capitaux suédois et kenyan spécialisée dans la mobilité verte, a dévoilé son bus électrique conçu localement. Il s'agit d'un prototype à partir duquel elle envisage une production à grande échelle. La conception de ce modèle vise à réaliser une migration progressive vers une mobilité plus verte, notamment en matière de transport en commun, et à réduire progressivement l'importation des bus d'occasion.